Album du Père Castor, cassette unique, deuxième face. Voici maintenant l'histoire de Tricoty Tricota par May d'Alençon. May d'Alençon. La mère Tricoty avait bien du mal avec ses enfants. C'était 12 garçons. Remuant, espiègle, insupportable. Il grimpait aux arbres, déboulait des talus, franchissait les barrières, sautait les ruisseaux quand il ne faisait pas la course à quatre pattes ou des glissades sur le derrière. Aussi, tous les soirs, lorsqu'il revenait à la maison, quel tableau, mes enfants! Chaussettes trouées, coudes percées, fond de culotte déchiré, souliers perdus. La mère Tricoty giflait l'un, tirait les oreilles de l'autre et en voyant coucher ses garçons, en criant le plus fort qu'elle pouvait, « Petit misérable, je ne veux plus vous voir. Comment vais-je vous habiller demain? Je n'ai plus que des moitiés de chaussettes, des moitiés de tricot et de culottes à vous mettre, car vous avez laissé l'autre moitié aux ronces et aux cailloux des chemins. Que faire, mon Dieu, que faire ?» Et la pauvre mère Tricoty levait les yeux au ciel, enfin je veux dire au plafond, puisque tout ceci se passait dans sa cuisine. Mais elle ne voyait qu'une bonne douzaine d'araignées qui se balançaient au milieu de leur toile, entre les poutres du plafond et aux quatre coins de la pièce. Elle se fâcha de plus belle. « Ces vauriens ne me laisseront même pas le temps de faire mon ménage. Voyez toutes ces araignées, elles filent tranquillement leur toile, tandis que je raccommode. Quelle maison! Quelle maison !» Mais patience, mes belles, je vous dénicherai avec mon balai dès que mes garçons seront sages. Les araignées se mirent à rire en se balançant de plus belle. Vous feriez mieux, mère Tricoty, de nous demander de vous aider à vêtir solidement vos garçons. Ah, si vous saviez travailler comme nous. Tenez, nous sommes bonnes bêtes, nous allons vous faire cadeau d'une petite fille et nous serons ses marraines. Nous l'appellerons Tricota. La bonne femme se demanda si elle ne rêvait pas, lorsqu'elle aperçut près de la fenêtre, assise sur une chaise basse, une petite fille à l'air sérieux qui travaillait le plus vite qu'elle pouvait. Elle tenait deux grandes aiguilles de celluloïde et tricotait une pelote de laine, grosse comme une citrouille, qui se déroulait à ses pieds. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Elle tricotait si vite qu'on voyait à peine ses doigts et que la chaussette qu'elle faisait s'allongeait à vue d'œil. La mère Tricoty ne se lassait pas de la regarder. « Quelle étonnante ouvrière tu es, Tricota! Ça fait à peine une demi-heure que tu travailles et tu as fait presque une chaussette entière. »«
Taisez-vous un peu, ma mère Tricoty, s'il vous plaît !» répondit poliment la petite fille. « J'arrive aux diminutions du talon et si vous me donnez des distractions, je vais me tromper. »
Tic-tic, tic-tic, tic-tic. La chaussette terminée tomba à terre. Sans même la regarder, Tricota se précipita sur le bout de la laine et se remit bien vite de nouvelles mailles sur son aiguille.
« Quelle merveille !» s'écria la mère Tricoty en examinant le travail de Tricota.
« Pas une erreur, pas une maille lâchée. »«
C'est heureux, mère Tricoty !» répondit Tricota. « Mais taisez-vous donc un peu, sans ça je n'aurais jamais terminé. » Les 12 paires de chaussettes que j'ai à faire avant le lever du soleil.
Tic-tic-tic-tic-tic-tic.
Mon Dieu, s'écria la mère Tricoty, 12 paires de chaussettes, pauvre petite.
Mère Tricoty, dit Tricota avec impatience, vous feriez mieux d'aller dormir, je serai plus tranquille. Et puis il faut vous lever au petit jour. Vous irez avec mes frères tondre les moutons et couper le chanvre. Et vous ferez de la laine et du fil, car ma pelote diminue à vue d'œil.
Lorsque les 12 frères Tricoty s'éveillèrent, ils trouvèrent sur leur lit 12 paires de chaussettes de laine, bien chaudes et bien solides.
Et si vous voulez chacun un tricot pour ce soir, dit Tricota, vite à l'ouvrage, car vous voyez, je n'ai presque plus de laine. Tic-tic, 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 tic-tic.
Les garçons coururent au champ avec leurs grands ciseaux. Cric-crac, cric-crac.
la laine tombait comme de la neige autour des moutons. Vite, il fallut la laver, la sécher, la peigner, la filer. À midi, comme Tricotat allait terminer sa pelote de laine, les 12 garçons arrivèrent tout souriants, un gros écheveau de laine blanche sur leurs bras. Tricotat les remercia et leur dit « À présent, mes bons garçons, allez couper le chanvre, car cela me gêne lorsque vous restez ici à me regarder sans rien faire. » Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Ah, fini les escalades et les batailles. Il faut travailler pour que Tricotat ne manque pas de fil. Plus de trous, ni de taches, ni de déchirures. Les 12 frères sont propres et habillés de tricot des pieds à la tête. La mère Tricotie n'a presque plus rien à faire. Elle prendrait bien son balai pour enlever les toiles d'araignée, mais elle n'ose pas. Ce sont les araignées qui ont envoyé Tricotat. Qu'arriverait-il si elle se fâchait? Que les journées lui semblent longues à cette pauvre mère Tricotie. Elle n'a plus qu'une seule occupation, la pauvre, celle de bâiller continuellement. Oh, je m'ennuie, j'ai sommeil. Et cela agace fort les araignées, car le souffle de mère Tricotie fait aller et venir les toiles, et les pauvres bêtes ont le mal de mer.
Prenez donc un peu mes aiguilles, mère Tricotie, dit un jour la gentille petite fille. Ce n'est pas si difficile que cela de tricoter. Voyez-vous, les aiguilles ont tellement l'habitude de tricoter qu'elles travaillent toutes seules.
C'était aussi l'avis de la mère Tricotie. En un rien de temps, elle fit une chaussette. Tout à coup, elle s'étonna de ne plus entendre Tricotat. Elle leva les yeux de son ouvrage et s'aperçut que la petite fille avait disparu. Au plafond, les araignées se balançaient toujours et regardaient la mère Tricotie en riant. Mais celle-ci était trop pressée pour perdre son temps à les observer. Elle reprit son ouvrage. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Les enfants, ça grandit si vite. Il faut toujours allonger chaussettes et tricots. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Voici maintenant l'histoire des musiciens de la ville de Brême, B-R-E, accent circonflexe, M-E. Un homme avait un âne qui, pendant de longues années, l'avait docilement servi, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Son maître songea à vendre sa peau, mais l'âne, voyant le vent souffler du mauvais côté, se sauva et prit la route de Brême. Là, se dit-il, je pourrai devenir musicien de la ville. Après avoir marché quelque temps, il rencontra un chien de chasse qui geignait comme s'il était fatigué par une longue course. Oh, oh, oh,
oh, oh. Qu'as-tu donc à geindre ainsi, camarade ? Lui demanda l'âne.
Oh, répondit le chien, mon maître a voulu m'assommer parce que je me fais vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse. Alors je me suis échappé. Mais comment gagner mon pain maintenant?
Écoute, dit l'âne, je vais à Brême où je compte me faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi recevoir aussi dans la musique. Je jouerai du luth et tu taperas sur les timbales.
Le chien accepta. Et ils firent route ensemble. À quelque distance de là, ils rencontrèrent un chat qui faisait une triste mine comme une pluie de 3 jours.
« Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache ?» lui dit l'âne.
« Comment serait-on joyeux quand on craint pour sa tête ?» répondit le chat. « Parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester couché derrière le poêle à ronronner que de courir après les souris. » Mon maître a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps. Mais maintenant, que faire? Et où aller?
Viens avec nous à Brême, dit l'âne. Tu t'y connais assez bien en musique nocturne. Tu deviendras, comme nous, musicien de la ville. »
Le chat suivit le conseil et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour de ferme sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait à tue-tête.
Tu nous perces la moelle des os, dit l'âne, qu'as-tu donc à crier de la sorte?
C'est aujourd'hui que Notre-Dame lave les chemises de l'enfant Jésus et qu'elle doit les faire sécher. C'est pourquoi j'ai annoncé le beau temps, dit le coq. Mais comme c'est demain dimanche et que ma maîtresse reçoit à dîner, elle a décidé qu'on me mangerait en potage. La cuisinière a l'ordre de me tordre le cou ce soir. Alors je crie de toutes mes forces pendant que je respire encore.
Crête rouge que tu es, dit l'âne, viens plutôt avec nous à Brême. Où que tu ailles, tu trouveras toujours mieux que la mort. Tu as une bonne voix, et quand nous ferons notre musique ensemble, notre concert aura bonne façon.
Le coq goûta cette proposition, et ils détalèrent tous les quatre. Ils ne purent pas atteindre la ville de Brême le même jour. Le soir tombait quand ils arrivèrent dans une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien s'installèrent sous un grand arbre, le chat y grimpa et le coq prit son vol et alla se percher tout en haut de l'arbre pour être plus en sûreté. En promenant ses regards sur l'horizon avant de s'endormir, il lui sembla voir une petite lumière au loin. Et il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance et qu'il envoyait la lumière.
Dans ce cas, dit l'âne, délogeons et hâtons-nous d'y aller, car cette auberge laisse fort à désirer. Le chien ajouta, quelques os avec un peu de viande autour ne me déplairaient pas.
Ils se dirigèrent donc du côté d'où venait la lumière et ils la virent bientôt grandir et briller davantage. Ils arrivèrent enfin près d'une maison de brigands largement éclairée. L'âne, étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur de la maison.
« Que vois-tu, Grison ?» lui demanda le coq.
« Ce que je vois, oh, une table chargée de bonnes choses et de boissons, et tout autour, des brigands qui s'en donnent à cœur joie.
« Voilà qui ferait bien notre affaire !» dit le coq.
« Ah !» dit l'âne, « si seulement nous étions à leur place !»
Ils se mirent donc à réfléchir sur les moyens à employer pour expulser les brigands. Et voici ce qu'ils imaginèrent. L'âne posa ses deux pattes de devant sur la fenêtre, le chien monta sur le dos de l'âne, le chat sur celui du chien, et le coq, prenant son vol, se posa sur la tête du chat. Aussitôt, le coq donna le signal et ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire.
Ah, 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 ah.
Le chien a aboyé.
Ouh, 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 ouh.
Le chat a miaulé.
Miaou, miaou, miaou.
Le coq a chanté.
Oh, 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 oh.
Et ils s'élancèrent dans la salle en faisant voler les carreaux de la fenêtre en éclats. À ce bruit effroyable, les brigands se levèrent en sursaut et croyant qu'un revenant entrait chez eux, ils s'enfuirent épouvantés dans la forêt. Alors, les quatre compagnons s'installèrent autour de la table, s'accommodant des restes et mangeant comme s'ils avaient dû jeûner un mois. Quand les quatre musiciens eurent achevé leur repas, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer chacun suivant sa nature et ses goûts. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude et le coq sur une solive, c'est-à-dire sur une poutre. Et comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Passé minuit, n'apercevant plus aucune lumière dans la maison et tout y paraissant tranquille, le chef des brigands dit « Nous n'aurions pourtant pas dû nous effrayer ainsi. » Il ordonna à un de ses hommes d'aller explorer la maison. Celui-ci trouva tout au calme. Il entra dans la cuisine et voulut allumer une chandelle. Il se munit donc d'une allumette et, prenant les yeux brillants du chat pour deux charbons ardents, en approcha l'allumette pour l'enflammer. Mais le chat, qui n'entendait pas la plaisanterie, lui sauta au visage et l'égratigna en jurant Saisi d'une grande frayeur, l'homme s'enfuit en courant. Mais le chien qui était couché derrière la porte s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Il traversa la cour et comme il passait près du fumier, l'âne lui décocha une ruade formidable. Pendant que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout alerte, criait du haut de son perchoir. Le brigand courut à toutes jambes vers son capitaine et lui dit « Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui m'a soufflé au visage et égratigné avec ses doigts crochus. Un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe est caché derrière la porte. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et sur le toit, il y a un juge qui criait « Ce bandit sera pris !» J'ai détalé à toute vitesse, et me voici. » Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et les quatre musiciens de la ville de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. Les nains et le géant, d'après un conte de Thor Dahlström. T-O-R-E, plus loin, D-A-H-L-S-T-R-O-T-R-E-M. Ce matin-là, le nain Petit Tout se mit en route de bonne heure. Il voulait demander au géant qui habite la montagne de réparer la meule de son moulin. Petit Tout avait une bonne figure en forme de soupière, des oreilles comme des anses, et son nez, caché entre ses joues rondes, ressemblait à une petite louche. Le soir arriva sans qu'il vît le géant. Apercevant l'entrée d'une caverne, il y entra pour dormir. Le lendemain, quand Petit Tout s'éveilla, il faisait nuit noire. Il chercha son chemin à tâtons. La grotte était profonde, divisée en plusieurs couloirs, et le nain s'y égara pendant des heures. Enfin, il vit un rayon de lumière et trouva la sortie. Regardant alors de plus près la muraille, il comprit qu'il avait dormi dans le gant du géant. « Le gaillard ne doit pas être loin, » pensa Petit Tout. Et en effet, il le trouva bientôt endormi dans la vallée. Sachant qu'il n'était pas facile à réveiller, il prit la plus grosse pierre qu'il put porter, grimpa sur la figure du géant et frappa de toutes ses forces sur la pointe de son nez. Le géant murmura dans son sommeil « Encore un seul moustique !» Et il continua de ronfler en faisant trembler les rochers. « Il faut que je lui chatouille la narine, » se dit le nain. Mais une plume n'y suffirait pas. Il descendit, coupa une grosse branche avec beaucoup de feuilles, remonta et enfonça la branche dans la narine en la retournant comme s'il ramonnait. « On se réveillerait, à moins, » pensait le nain en souriant. Il ne sourit pas longtemps. « Hachim !» fit le géant. Il éternua si violemment que Petit Tout fut projeté 100 mètres plus loin au sommet d'un arbre. Le géant se frotta les yeux, les ouvrit et vit le nain qui de loin lui faisait des signes désespérés.
« Oh là, l'ami !» cria le géant avec bonne humeur. « Qu'est-ce que tu cherches là-haut? Des nids d'oiseaux ?»
Sans bouger, il étendit un bras, cueillit doucement le nain entre deux doigts et le plaça à califourchon sur son nez.
« Tu as une bien vilaine façon d'éternuer, » lui dit le nain. « Il ne doit pas faire bon t'approcher quand tu as un rhume de cerveau. »«
Non !» sourit le géant. « Quand ça m'arrive, je peux compter par milliers les oiseaux morts autour de moi. On dirait qu'une tempête a passé par là. Mais dis-moi un petit peu ce qui t'amène. »«
Voilà, » dit Petit Tout, « je viens te demander un service. Mon moulin ne marche plus. La meule courante, c'est ainsi que nous appelons celle qui est dessus et qui tourne, c'est brisé net, et je ne peux plus faire de bonne farine. Voudrais-tu nous chercher une pierre, la tailler, faire un trou au milieu et la mettre en place ?
Soit, dit le géant, mais je trouve que tu me déranges bien souvent pour ce moulin-là. On était plus tranquille autrefois. Il y avait beaucoup plus de géants alors et beaucoup moins de nains, et ils n'auraient pas osé venir nous chatouiller le nez, même avec un bouquet de fleurs. C'était le bon vieux temps. Enfin, allons. Je connais un endroit où il y a des pierres meulières. Mais quelle drôle d'idée de manger des graines. C'est bon pour les poules. Moi, je préfère croquer des pommes de pin. C'est plus juteux.
Le géant mit le nain dans sa poche de gilet et fila comme le vent. Arrivé à la carrière, il sortit le nain de sa poche, enleva un gros bloc de pierre, l'arrondit au couteau, fit un petit creux au milieu, mit son pouce en l'air, plaça la meule dessus, le pouce dans le creux et la fit tourner avec la main gauche si vite, si vite, si vite qu'il en sortit des étincelles. En moins d'une minute, le pouce avait traversé la pierre dure.
« Ça, c'est du beau travail !» dit le géant très fier de lui.
« Gros bêta !» répondit aigrement le nain. « Ne vois-tu pas que le trou est 3 fois trop grand ? Mon pivot y tournerait à vide, comme dans un chaudron.
« Oh, tu as raison, » dit le géant confus. « Je n'avais pas pensé à cela. J'aurais dû la tourner sur mon petit doigt. Recommençons. »
Il prit un autre bloc, refit l'opération. Cette fois, le nain se déclara satisfait. « Et maintenant, courons à la maison, car le boulanger attend la farine pour faire son pain. » Le géant remit le nain dans la poche de son gilet et l'ameula son doigt comme une bague. En chemin, le nain réussit à remonter de la poche qui était profonde comme un gouffre, et s'agrippant au bord, il se hissa à moitié dehors et cria de tous ses poumons « Ohé, mon petit !»«
Quoi ?» rugit le géant.
Et il se pencha pour entendre.
« Quand tu approcheras, regarde bien où tu poses les pieds, sinon tu aplatiras tout le village comme une crêpe. »«
Je marcherai sur les pointes, » promit le géant.
Il n'oublia pas sa promesse et déposa doucement le nain près de son moulin et la meule sur son pivot. Petit Tout alla ouvrir les vannes, l'eau coula, la roue tourna, la meule suivit en ronronnant.
« Ça tourne très rond, » dit le nain enchanté, « merci mille fois, mon ami. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour te récompenser ?»«
Tu peux faire une chose, » répondit le géant. « Je n'ai jamais mangé de pain de ma vie et je voudrais en goûter ne fût-ce qu'une seule fois. Il faut que ce soit un grand, grand pain. »«
Tu l'auras si tu attends, » promit le nain.
Le géant s'accroupit donc sur la grande place, avec beaucoup de précautions pour ne pas faire écrouler les maisons alentour. Mais il se sentait un peu à l'étroit. Le meunier courut chez le boulanger pour l'avertir. Celui-ci se gratta la barbe, qu'il avait longue, et réfléchit. « Ah, je vois bien que mon fournil ne suffira pas pour un monstre pareil. J'ai trouvé !» À 2 pas du bourg, il y a un grand creux dans le roc, rond et lisse et pas trop profond. Les anciens l'appelaient la marmite des géants parce qu'ils croyaient que les géants l'avaient creusé pour y faire bouillir leur soupe. On pourrait le chauffer et cuire le pain dedans. Seulement, il faut que tout le village nous aide. Ils appelèrent les voisins. On commença par rouler des brouettées de braise, mais il n'y en avait pas assez. Il fallut de plus brûler 6 douzaines de fagots de sapin. Puis ils transportèrent toute la farine de la boulangerie et du moulin sur une plateforme voisine. Le boulanger ajouta 2 sacs de gros sel pour le goût et 3 autres de cendre fine pour la levure, car le petit bonhomme connaissait son métier à fond. Et maintenant, des pelles. Les nains en apportèrent 100. Qu'une partie d'entre vous fasse la chaîne jusqu'à la rivière pour monter des seaux d'eau, et il en faudra, pendant que les autres remueront la pâte. Les nains relevèrent leurs manches de chemise et se mirent à pétrir à cœur joie. Cela faisait une pâte, comme on n'en voit pas tous les jours, une vraie colline. Quand la marmite des géants fut chaude à point, le boulanger et ses garçons en retirèrent la braise. Puis ils y jetèrent la pâte par pelletée.
« Il nous faut un couvercle. Apportez-moi le toit de la grange en face. Bon, ça va. »
Au bout de quelques heures, le boulanger envoya le meunier chercher le géant, qui fut bien content de se dégourdir les jambes.
Il enleva le toit d'une chiquenaude et regarda. « Oh, pas bien grande, votre miche, » grommela-t-il, « mais elle a l'air croustillante. Je vais d'abord goûter une miette. »
Et il enleva un morceau gros comme une tourte de campagne.
« Pas mal !» Et il avala la miche tout entière. « Merveilleux !» s'écria-t-il avec un large sourire. « Je n'aurais jamais cru que ce fût si bon. Merci, camarade. Écoutez, si vous promettez de me faire un pain pareil une fois par an, je vous promets à mon tour de tuer tous les ours, brom brom, et tous les loups, ouh, à 100 lieues à la ronde. Les discours me donnent soif et je vais boire une gorgée. »
Il se pencha sur l'étang du moulin et le vida d'un seul trait.
Malheureux, lui cria le meunier, tu as arrêté mon moulin. Pas d'importance, la rivière remplira de nouveau tes vannes. Bonsoir tout le monde.
Les nains rentrèrent chez eux, contents et fourbus, ça veut dire très fatigués. Le boulanger prit le meunier à l'écart. Il est gentil ton client, mais c'est une chance qu'il ne revienne qu'une fois par an. Nous aurions la famine au village. Puis il éclata de rire. Tu connais pas le plus drôle de l'histoire?
Non.
Non? Non. Le plus drôle de l'histoire, c'est que nous avons laissé des pelles dans la pâte et qu'il a tout avalé sans s'en apercevoir. Fin de la deuxième face de cette cassette unique d'album du Père Castor.